Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Au micro et de l'ami fidèle.
Laurent.
À la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ses aspirations de l'instant et son désir imminent. La 31e édition des Journées européennes du patrimoine, dont le thème est patrimoine culturel, patrimoine naturel, se tient les 20 et 21 septembre. Nous avons voulu fêter cet événement en essayant de comprendre comment on gère un bâtiment inscrit au patrimoine. Lourde charge pour qui nous avons eu le plaisir d'être accueillis dans un lieu superbe par de délicieuses personnes. Le lieu, la Galicière, à Chatte, en Isère. Vous voyez Chatte, près de Saint-Marcellin. La Galicière est une usine de moulinage de la soie, protégée au titre des monuments historiques. Pour entrer dans ce sujet passionnant, nous avons invité le couple de propriétaires Nadia et Jean-Pascal Crouzet qui ont collaboré à l'ouvrage Galicière, une usine de moulinage de la soie. Bonjour Nadia et Jean-Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter aux questions que suscitent les journées du patrimoine. Vous êtes tous deux architectes, vous sortez de l'école d'architecture de Grenoble. Une mouche vous pique, vous achetez l'usine, la Galicière, pour en sauvegarder le domaine, immense tâche. On se gausse au début, ils n'y arriveront pas, c'est une action gigantesque, un acte d'amour immense pour ce patrimoine. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir propriétaire de cette usine et de vouloir ainsi préserver la mémoire de toute une histoire de famille et de société ? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic pour partir dans une pareille aventure ?
Je crois qu'au départ, c'est une simple visite. J'ai eu l'occasion de pouvoir traverser les ateliers qui étaient désaffectés depuis 1914. Et j'avais vraiment l'impression que les ouvrières étaient simplement parties faire un tour. Le bien était à vendre. Et donc, c'est un coup de foudre. Donc, c'est difficile de trouver de la raison derrière un coup de foudre. Et puis c'était aussi l'occasion de créer un foyer, reconquérir celle qui, la même année, est devenue ma femme et m'a donné un enfant.
Et c'était en quelle année tout ça ?
En 97, un an après le décès de la dernière descendante de la famille Crozel, et non pas Crouzet, Crozel, qui a occupé les lieux pendant à peu près 2 siècles.
Et comment êtes-vous arrivé à ce lieu ? Parce qu'en fait, il est retiré, il est immense.
Il est immense, mais mon père est marchand de biens, donc lui avait acheté le bien. Et comme il a fait très souvent, il m'a appelé. Moi, à l'époque, je travaillais à Londres en me disant « je viens d'acheter quelque chose qui va te faire rêver ». Donc il m'a fait ça toute ma jeunesse. Et là, pour une fois, j'ai pris le bien qu'il me présentait. Et donc on a acheté, et ça a été le départ de cette aventure.
Racontez-nous l'histoire de cette usine qui est imposante. J'ai vu la fabrique basse, la fabrique haute. Qui faisait-on ? Quand on s'y promène, on pense entendre le bruit de l'eau et le cliquetis des machines.
Alors qui faisait-on ? On y fabriquait un fil de soie qui s'appelle l'organcin. En fait, c'est un fil de soie qui est un fil de chêne dans le tissu. Et on y faisait un fil qui était produit à la demande, hein, à la part des négociants lyonnais, des négociants de soie, qui passaient commande donc aux fabriques dans les alentours de Lyon. La Galicière est une des premières usines à s'être implantée dans l'Isère, puisque les machines datent de autour de 1790. Donc c'est une implantation qui est ancienne, beaucoup plus ancienne que toutes celles qui ont jalonné ensuite de la vallée du Rhône jusque dans le sud de la France, qui, elles, ont été très nombreuses au 19e siècle. Donc la Galicière est vraiment une espèce de prototype, en fait, de la proto-industrialisation du fil de soie. Et au départ, sur ce site, il y avait même 2 usines. C'était deux usines différentes qui avaient chacune leur atelier de production, leur appartement directorial, leur production d'énergie avec deux roues différentes. Et elles ont ensuite été réunies. Elles ont été gérées pratiquement, on peut dire simplement comme ça, 200 ans par la même famille qui a été la famille Creusel, puisque l'usine s'est arrêtée en 1914 pour le premier atelier, celui de la fabrique haute, et dans les années 30 pour la fabrique basse. Voilà, et les deux usines ont été réunies autour de 1850.
Et quand vous avez acheté, est-ce que les machines étaient encore en place ?
Ah, ben elles sont toujours en place. Voilà, et ces machines datent donc de la Révolution française. Elles sont essentiellement en bois, elles sont même pratiquement toutes en bois, excepté quelques axes, quelques pièces de verre, mais elles ont la particularité d'être toujours en place et toujours visibles. Alors évidemment, elles ont subi un petit peu l'outrage du temps et surtout l'usine ayant été désaffectée pendant une centaine d'années, puisqu'on fête le centenaire cette année, elle a été un petit peu vandalisée. Ceci dit, le gros des pièces est encore en place, on a aussi des pièces de rechange, donc on peut tout à fait percevoir et comprendre le mécanisme et comment on fabriquait ce fil de soie. Et ces machines, alors comment explique-t-on qu'elles soient encore là, elles soient encore en place ?
C'est pour ça qu'on peut revenir sur le coup de foudre, et donc le coup de foudre est souvent lié à une histoire de femme. Et donc là, c'est une histoire de femme, c'est ce qui explique aussi que les machines soient restées en place. Généralement, dès qu'une industrie périclite, on enlève les machines, on les remplace par de nouvelles. Et là, la dernière descendante de cette famille était une fille. Donc c'était une époque où on ne destinait pas les filles aux affaires. Et donc les ateliers ont été fermés, sont restés en place. Ce qui aussi a déclenché ce coup de foudre, pour revenir à votre première question, ce sont les graffitis et les traces des jeunes filles sur les machines qui ont laissé leur nom, qui ont fait des dessins. On sent une obsession liée aux machines, puisqu'il y a énormément de roues qui sont dessinées sur les bancs de doublage ou de dévidage. C'était une population essentiellement féminine dans les ateliers, donc ouais, le coup de foudre est aussi lié à l'histoire de toutes ces femmes qui ont occupé ce lieu.
Et ces femmes qui occupaient ce lieu logeaient sur place. Est-ce que c'était ce qu'on appelle un genre de usine pensionnat ?
Alors, usine pensionnat, peut-être que c'est un grand mot, hein, si on se réfère à d'autres usines qui étaient beaucoup plus importantes en nombre, celle de Saint-Simeon de Brécieux, par exemple. Mais oui, il y avait un dortoir. Donc, les ouvrières dormaient aussi sur place, dans la mesure où elles venaient des campagnes environnantes. Elle passait la semaine dans l'usine et dormait sur place dans un dortoir qui comptait 38 lits. Bon, celui-ci, ce bâtiment n'est plus visible aujourd'hui. Il a été détruit puisqu'il menaçait ruine. Il était dangereux et il est un petit peu tombé tout seul. Mais on a retrouvé des lits, des bouts de lits, l'endroit où elles préparaient leur repas. Et donc elles arrivaient souvent le dimanche soir et elles repartaient le samedi à midi, en ayant passé la semaine avec leur repas qui était apporté pour la semaine.
Il y avait également une magnanerie. Est-ce que c'était cela qui... Enfin, il y avait un départ à ce travail.
Alors la magnanerie a été implantée en 1850, en même temps que la filature. Il y a eu une volonté de maîtriser le cycle complet de production, ce qui est assez rare et qui fait de la Galicière un lieu unique. Nadia a parlé des deux usines, c'est assez rare. Non seulement il y a deux usines, mais il y a aussi deux usines de moulinage, mais il y a aussi donc la magnanerie, là où on éduque les vers à soie, et ensuite la filature qui permettait de transformer le cocon en un premier écheveau de fil. Généralement, ce sont toujours des opérations qui avaient lieu dans des endroits distincts. Là, tout est réuni sur un même lieu et même cycle, et les chevaux étaient ensuite portés dans les ateliers de moulinage pour subir les différentes opérations de torsion, le produit final étant une bobine de soie destinée aux tisserands lyonnais.
Alors, on explique cela par le fait qu'à un moment donné, ils ont certainement dû avoir le besoin de maîtriser leur matière première, qui était le cocon de soie, et qui venait des fermes alentours, en fait. Hein. À Châtes, il y avait des tas de fermes, et pendant un moment, pendant le printemps, tout s'arrêtait et on produisait des cocons de soie à la maison, qu'on vendait ensuite à la fabrique. Donc évidemment, il fallait des quantités énormes, puisque les usines étaient assez importantes. Et donc, on pense qu'à un moment donné, hop, ils ont construit cette magnanerie pour pouvoir produire eux-mêmes et surtout avoir une production qui soit linéaire, qui soit constante. Voilà. Et donc, la filature, qui est un élément très important de la galicière, fait qu'en 1870, Pierre Léon l'a classée au troisième rang du département en termes d'équipement, hein, non pas en termes de personnel, puisque encore une fois, il y avait des fabriques qui étaient bien plus importantes en nombre, mais par son équipement et surtout à cause de cette filature. Avoir une filature dans un moulinage, ce n'était pas courant. Alors, simplement, je termine juste avec peut-être les particularités de la galicière. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux usines sur le même lieu. Mais ces deux usines sont toutes les deux d'une architecture typique bien différente, c'est-à-dire que 80% des moulinages présentent un couvrement en anse de panier, hein, c'est-à-dire un plafond arrondi, et 20% avec un plafond plat sur deux étages. Eh bien, à la Galicière, nous avons ces deux architectures qui sont bien présentes, les deux architectures différentes des moulinages.
Et pourquoi cette différence ?
On n'en connaît pas vraiment la raison. Visiblement, la fabrique haute était un bâtiment existant dans lequel on a rentré des moulins, puisque ce sont des moulins qui n'ont pas les tailles habituelles. En revanche, la fabrique basse, on retrouve effectivement des moulins avec des tailles identiques à celles d'autres moulinages. Et généralement, les bâtiments étaient construits autour des machines. C'est la machine qui donnait la dimension du bâtiment. Puisque avant que ça ne devienne un moulinage, on a les traces d'un moulin. Donc ça, autour du XVIIe siècle.
550 à peu près, oui.
Et si on remonte encore plus loin, il y a la trace d'une présence romaine, puisqu'il y a des tesselles de mosaïques qui ont été relevées à la fin du 19e siècle par Hippolyte Müller, le créateur du musée dauphinois.
Alors pour vous, c'est vraiment en tant qu'architecte, vous découvrez tous les jours des éléments nouveaux ou vous avez une accroche particulière.
Vous avez raison, tous les jours, ce week-end, on s'est rendu compte qu'une porte qu'on a devant les yeux depuis bientôt 15 ans, on vient de se rendre compte que c'était une fenêtre. Et qu'effectivement, ça a été transformé en porte. Donc oui, tous les jours, on découvre de nouveaux éléments. Il y a énormément à lire. On est aidé par des spécialistes, notamment pour ce qui est des machines, puisque nous ne sommes pas du tout issus de l'industrie de la soie. Donc on est toujours preneur de spécialistes qui nous aident à déchiffrer, décoder ce bâtiment et ces machines.
Et retrouver les graffitis, les inscriptions de ces femmes qui avaient envie de laisser une marque.
Alors après, c'est sujet aussi à toutes les projections. Chacun imagine et projette un peu ce qu'il veut. Quand on dit graffiti, je ne suis pas sûr que ce soit complètement approprié. En tout cas, ce n'est jamais revendicatif. C'est plutôt des noms ou éventuellement des commentaires en rapport avec le temps.
Et ces jeunes filles étaient elles avaient un planning bien précis, parce que vous avez un grand livre, vous trouvez un grand livre dans les archives dans lesquelles tout
ça,
est inscrit.
Ça, c'est un livre de paye. C'est ce qui nous a permis de comprendre et de compter les ouvrières. C'est vrai que quand on parle d'enfants, puisque c'était essentiellement des enfants, donc au-delà de 13 ans, normalement, et jusqu'à 10 heures par jour, ça peut ressembler à un bagne. Mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, elles chantaient, que c'était quand même essentiellement un travail de surveillance. Et quand elles étaient attrapées en train de broder ou de... La punition, c'était le retour aux travaux des champs. Donc on a du mal aujourd'hui à imaginer, mais elles étaient entre copines, dans un milieu protégé des intempéries. Donc aujourd'hui, avec notre regard contemporain, on trouve ça bruyant, etc. Mais je pense qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment une problématique. C'était quand même un des premiers éléments d'émancipation des femmes qui avaient accès à un pouvoir économique, même si derrière, elle était confisquée par les familles. Mais non, visiblement, il y avait une très bonne ambiance, même si c'était dans un milieu probablement insalubre et extrêmement bruyant.
Est-ce qu'on a une idée des cadences qui leur étaient imposées ?
Alors, l'histoire des cadences, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard. Et justement, quand on a visité l'usine de Juge Jurieux, où là, il y a énormément de graffitis, l'augmentation des cadences a coïncidé avec la disparition des graffitis. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir le temps de pouvoir aller graver son nom. Et donc, dès qu'il y a eu des cadences, c'est la disparition des graffitis et peut-être les premières revendications, justement. Mais non, mais on n'a pas vraiment d'idée. Hein. C'est quand même assez lointain aujourd'hui. Et on a essayé de trouver des témoignages. La première exposition que nous avions organisée pour ouvrir le site au public, on avait retrouvé des photos qui avaient été prises par un des membres de la famille Crozel, le chanoine, l'oncle de la dernière descendante, des photos prises entre 1898 et 1911. Et un peu benoîtement, naïvement, on avait pensé pouvoir sortir ces inconnus de l'anonymat. En réalité, c'était beaucoup trop vieux. Et pour vous donner une petite anecdote, deux dames qui avaient 85 ans ont reconnu leur mère qui, sur les photos, avait 10 ans. Donc tous les adultes, oui. Il y a longtemps qu'ils avaient disparu de la mémoire collective. Donc on n'a pas du tout de témoignages oraux de ce qui s'est passé dans ces fabriques.
Cuando te quedes aquí enmarcado en mi risa, no puedas ya escaparte de prisa por miedo a perderte con un viejo amor. Cuando
Couleur FM 97.1 avec comme invités Nadia et Jean-Pascal Crouzet qui viennent de nous proposer leur choix, groupe M Périnée, qui a été reçu par vous à Châtes. Nous venons d'entendre Swing Romantico. Et pourquoi ce choix, Nadia et Jean-Pascal ?
Alors, M. Périnée s'est produit l'an dernier dans le cadre des Allées Chantes, les concerts organisés par le Conseil Général. Ça a été une magnifique surprise. C'est un groupe de jeunes Colombiens, donc on sort un peu des clichés de l'image qu'on pourrait avoir de jeunes en Colombie. C'est de jeunes mélomanes qui sont tombés amoureux par le biais de YouTube de Django Reinhardt et des triplettes de Belleville. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là. C'est un jazz pas du tout intellectuel, très festif, matiné de sons d'Amérique latine. Il y a un Cubain, il y a plusieurs. Enfin, ils sont essentiellement colombiens, mais il y a aussi d'autres nationalités qui les accompagnent. Et franchement, ce concert à la Gélissière qui venait clore leur tournée européenne, vous imaginez, on avait un peu l'impression de se retrouver dans le caverne et de découvrir les Beatles au début des années 60. Donc c'est des gens qui ont des millions de vues sur YouTube et qui continuent une tournée mondiale, et c'est vraiment une musique festive et entraînante.
Ouais, ils ont mis le feu à la Gélissière l'année dernière au mois d'août.
Merci.
Donc cette Gélissière que vous achetez en 97, quelles sont vos actions ensuite pour pouvoir sauvegarder tout ce domaine ?
Alors, nos actions, il faut quand même se remettre dans le contexte. En 97, lorsque Jean-Pascal visite la Gélissière, les bâtiments sont abandonnés depuis quelques années, puisque Mademoiselle Crozel, qui est morte centenaire, était en maison de retraite depuis quelques années. L'usine, comme on l'a dit, avait fini de fonctionner depuis les années 30. Donc les bâtiments étaient laissés à l'abandon. Cette demoiselle n'avait pas de descendants. Elle vivait avec ses parents et à la fin seule. Donc l'entretien était un petit peu minimaliste. Alors évidemment, quand on a acheté la Gélissière, eh bien, il y avait quelques petits travaux à faire, entre autres quelques toits. Il y avait vraiment oui, des dégâts. Il y avait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, la première fois que je suis moi-même arrivée sur place, j'ai pas pu passer le porche. Hein. C'était plein. C'était plein de tout. C'était plein de débris, de tout. Donc, on a passé déjà 3 ans à relever le bâtiment, à débarrasser, à couper les mauvaises herbes,
les premières
pour pouvoir y accéder.
Les premières actions se sont faites, d'ailleurs, avec les amis de la Gélissière. C'est-à-dire que la première fois, on ne savait même pas ce qu'était une association. Donc, on avait réuni tous nos copains pour qu'ils nous donnent un coup de main pour débarrasser, puisque, comme l'a dit Nadia, on ne pouvait pas accéder. C'est une centaine d'années d'accumulation de pots de fleurs, de bouchons. Enfin, c'était quand même... Et c'est en ça que la Gélissière est toujours très instructive. C'est qu'ils ne jetaient rien. Aujourd'hui, on jette tout. Eux ne jetaient rien. Donc, on a jeté un peu pour eux parce qu'il fallait quand même faire de la place. Et suite à ça, un copain nous a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas une association ?» Et donc l'année suivante, en 2000, nous avons créé l'association Les Amis de la Gélissière. Et depuis, chaque année, les membres de l'association se réunissent. Donc au départ, on avait appelé ça les corvées de la Gélissière. Donc pendant 3 ou 4 ans, effectivement, il a fallu débarrasser tous les bâtiments. On a fait de très beaux feux à chaque manifestation. Et depuis, ces manifestations sont devenues des ateliers de la Gélissière, donc qui mélangent à la fois des ateliers de maçonnerie, de pose de verre ou de temps en temps fabrication de décors pour les spectacles qui sont donnés l'été.
Donc c'est chaque année, au mois de juin, et ça correspond aussi avec la fête de la musique, donc on lie l'utile et l'agréable. Et c'est un bonheur, puisque nos adhérents reviennent chaque année, se retrouvent entre eux, et puis grandissent aussi, les enfants grandissent au fur et à mesure, et viennent donner un coup de main, et c'est vraiment des bons moments de partage.
Ce sont tous des bénévoles depuis le départ, ou bien vous avez là des professionnels ?
Alors non, l'association est essentiellement basée sur des bénévoles, puisque aujourd'hui elle compte 130 membres. Et c'est grâce aux bénévoles qu'on arrive à faire toutes les animations, à proposer les animations que l'on fait chaque année au public. Sans eux, sans les bénévoles, on ne ferait rien. Tout seul, on ne fait rien.
Et je voudrais savoir au sujet des machines, comment est-ce qu'on entretient des machines? Je suppose qu'il faut quand même un savoir-faire particulier.
Alors on aimerait pouvoir en être déjà là. Je dirais qu'aujourd'hui, les machines sont protégées de manière intellectuelle, puisqu'elles sont elles aussi inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Mais aujourd'hui se pose la problématique de leur protection physique. Donc c'est assez compliqué. Ce sont des machines qui sont en bois, donc attaquées par des insectes. Une des raisons aussi de ce livre, c'est d'arriver à générer des fonds pour pouvoir stopper l'attaque des insectes dans un premier temps, et effectivement dans un second temps, de commencer à restaurer les machines. Et ça, pour cela, on est encadré par les spécialistes de la DRAC. Mais je dirais qu'il n'y a pas de réponse évidente. Donc aujourd'hui, on est toujours à la recherche de solutions qui ne soient pas trop toxiques, puisque pour l'instant, ce qui nous a été proposé, c'était un peu de gazer des insectes. Et donc, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure solution.
Et votre projet est de vraiment remettre en route ce système ?
Je pense que ça, c'est pas tout à fait réaliste. En revanche, si on pouvait effectivement arriver à refaire tourner un moulin, donc c'est ce qu'on peut voir dans différents musées, où avec un petit moteur électrique, on arrive à refaire tourner un moulin, ce qui permet aux visiteurs de comprendre le fonctionnement de ces machines. À la Galissière, c'est des roues à aubes, donc là, c'est assez compliqué d'arriver à les refaire tourner. L'alimentation en eau n'est plus ce qu'elle était, compte tenu de la façon dont on traite nos nappes phréatiques. C'était une source issue d'une résurgence naturelle, et donc aujourd'hui, les nappes sont un petit peu trop basses. Pour l'instant, je dirais que le plus important, c'est d'arriver à stopper les attaques des insectes.
Et pour vous, c'est important le côté pédagogique, en fait, si je comprends bien. Le travail que vous faites, c'est pour un genre de musée
Alors, musée, je crois que justement, on est un petit peu en dehors du musée. Le musée, ce sont des machines qui sont sorties de leur contexte. Ici, ce qui fait la beauté, la rareté, l'intérêt du lieu, c'est qu'elles sont sur place. Donc, effectivement, la pédagogie et l'aspect pédagogique nous intéresse, et il n'y a rien qui ne nous réjouit plus que quand on a des visites d'écoliers. Donc ça arrive plusieurs fois dans l'année, et c'est aussi fantastique de voir le regard de ces enfants devant ces machines, de leur expliquer qu'il n'y a pas si longtemps, les conditions de travail s'apparentent un peu à celles des jeunes qui leur produisent leur chair basket. Donc il y a des parallèles et des allers-retours constants avec le temps d'avant, le temps d'aujourd'hui, avec des solutions qui aujourd'hui nous paraissent novatrices, mais qui étaient déjà en place. Le moteur à eau de la Galissière ne polluait pas vraiment. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, et ça, c'est toujours intéressant d'échanger à ce sujet.
Et vous jouez de cela, justement, pour les Journées du patrimoine. C'est votre idée de guidage, d'expliquer. Est-ce qu'il y a un monde, un public particulier qui vient pour ces journées ?
Oh, un public particulier, on essaye d'avoir un public varié, donc c'est pour ça que chaque année on essaye d'avoir une animation qui ouvre un petit peu le public aux jeunes. On aime bien en fait que le patrimoine s'ouvre aux jeunes, et ça, on essaye aussi d'avoir un langage qui se...
Il y a eu des animations particulières mises en place par la communauté de communes avec des parcours ludiques, donc là qui étaient vraiment orientés vers le public très jeune. Je dirais que non, on ne choisit pas, c'est ouvert au public, donc vient qui veut. On essaie de se renouveler parce qu'il y a beaucoup de fidèles, des gens qui reviennent tous les deux ou trois ans. On a vu ces dernières années de plus en plus de jeunes. Il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que c'était un peu caricatural, mais c'était quand même plutôt le troisième âge, le patrimoine. Et là, ça fait 5 ou 6 ans qu'on voit de plus en plus de jeunes adultes, des adolescents, et maintenant même des enfants qui soit sont venus par le biais de l'école, donc ramènent leurs parents sur les sites. Et on est toujours vraiment surpris par la qualité d'écoute des gens qui viennent lors des journées du patrimoine.
Ah oui, tu parles d'écoute, d'autant plus que comme le site n'est pas fait pour la visite, C'est essentiellement une visite guidée et on parle pendant une heure et demie, comme ça. On parle à des gens qui nous écoutent, qui sont nombreux, et on leur fait imaginer ce que ça pouvait être et comment ça pouvait fonctionner. Donc ça demande une grande force d'imagination et c'est d'autant plus captivant quand on voit leur regard complètement éberlué face à ce que ça pouvait être. Oui, ça c'est très plaisant. Et cette année, on a une animation particulière puisqu'on a un groupe de lecture qui s'appelle les Amis de Cigalière. C'est un groupe de lecture qui est animé par Pierre Le Carme. Et Pierre Le Carme est donc un écrivain, et surtout l'écrivain qui a écrit la partie roman de notre livre « Galicière, une usine de moulinage de la soie ». Et donc notre visite, son aspect un peu technique, sera ponctué par des lectures faites par ce groupe de lecture.
Ce sont des extraits du roman, donc « Cigalière », l'anagramme de Galicière.
Et dont l'autre titre est « Saison close pour une fille de soie ».
C'est joli.
Coucou, les rosiers fleurissent. Coucou, les rameaux verdissent. Coucou, voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille. Coucou. Les yeux des filles, coucou, enfant tout autant. Que faites-vous, que faites-vous encore à sommeiller? Éveillez-vous, éveillez-vous, le monde est transformé. Coucou, ouvre-moi bien vite. Coucou, mon cœur vous invite. Coucou, il faut nous aimer.
Couleur FM 97.1 avec nos invités Nadia et Jean-Pascal Crouzet qui nous présentent un second morceau, Coucou, du groupe M. Périnée. Et voici notre coup de cœur des lecteurs avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions et complices de nos découvertes, avec le porte-parole Dominique Molin. Merci Dominique de nous conter ton choix à nous faire craquer l'ossature.
Donc je vais parler d'un livre traduit de l'italien, Le dernier été du siècle, de Fabio Geda, G-E-D-A. C'est l'histoire d'un petit garçon, 12 ans, qui se découvre un grand-père dont il ignorait jusqu'à l'existence. Son père, restaurateur en Sicile, est atteint d'un cancer. Il doit se faire soigner à Gênes. La mère reste avec son mari durant les soins. Il faut donc trouver un hébergement pour le fils. C'est ainsi que Zeno, c'est son nom, arrive dans un petit village de montagne à 1h30 du grand port et découvre ce vieux monsieur qui parle le moins possible et n'a qu'une idée en tête, envoyer l'enfant dans sa chambre. En soi, l'histoire pourrait n'être qu'attendrissante si l'auteur ne nous livrait pas, parallèlement à ce récit, les cahiers tenus par le grand-père depuis 1938. Au fur et à mesure que le livre avance, nous découvrons ce grand-père, son enfance, sa jeunesse, la rencontre de celle qui deviendra sa femme, ses parents, ses amis, la guerre, la fuite en France. Et voilà qu'un lien se noue entre le vieux solitaire, son petit-fils. Les deux récits convergent. Petit à petit, l'histoire du grand-père rejoint et éclaire celle de son petit-fils, ce qui donne toute sa force à un roman bouleversant qui montre comment un enfant, par sa seule présence, mais aussi par ses attentes face à l'adulte, réussit à séduire un homme qui avait fermement décidé de s'exclure du monde. Cela nous donne de très beaux tableaux, une partie de pêche en mer, l'exploration d'une grotte, la découverte d'une montagne par mauvais temps, car il faut absolument trouver un endroit où pouvoir utiliser son portable pour entrer en contact avec son père. Et puis il y a les compagnons de jeu, Isaac, foot basket, la belle Luna, aperçue un jour derrière un rideau, ces trois papilles inséparables qui passent leur journée sur un banc, et puis Zeno, nourri de comics américains, qui rêve de devenir dessinateur de BD, ce qui nous donne des pages passionnantes sur le dessin, l'imagination et la création. Un roman très subtil, léger, grave tout à la fois, une histoire d'enfance jamais simple, une histoire d'adulte souvent compliquée. Un extrait que je vais lire, c'est un de ces moments où le grand-père et le petit-fils se trouvent côte à côte et commencent à se rapprocher. Puis une habitude agréable s'instaura le soir entre grand-père et moi, qui consistait à inventer des univers. Pendant la journée, je passais des heures épiques avec Luna et Isaac à jouer et nous chamailler au crépuscule, assis sur le canapé ou dehors, en tailleur, dans l'herbe, sur une couverture de laine pour me défendre de l'humidité du sol. J'écoutais cet homme inquiet tisser des mondes et, emporté par sa voix, je les complétais et les redéfinissais dans ma tête. La méfiance qui nous avait tenus à distance pendant près d'un mois s'assouplissait, laissant affleurer la fascination de la découverte. Il arriva qu'un soir, plus fatigué qu'à l'ordinaire, je m'étais blotti dans le canapé, tandis que la lumière de la lune baignait les prés. Je le priais de bien vouloir lire à voix haute. Papa le faisait souvent. Sans dire ni oui ni non, il prit la nouvelle d'Hemingway qu'il avait commencée le soir de l'orage. Je le laissais aller jusqu'au bout, même si je ne compris pas grand-chose à ces conversations qui n'en finissaient plus sur le métier de barman, la propreté, la luminosité, etc. Mais comme nous étions dans le sujet, je lui demandais où il aurait aimé vivre s'il avait pu choisir, y compris si c'était un lieu inventé. Je ne pensais pas qu'il me prendrait au sérieux. J'étais persuadé qu'il s'en tirerait avec une banalité, en adulte qui accepte de jouer le jeu pour favoriser les rêveries de l'enfant, pas pour donner libre cours aux siennes. Mais il répondit, « Sur l'île de Robinson Crusoe. Tu sais où elle est ?»« Nulle part, c'est un endroit inventé. Elle se trouve à 20 lieues des côtes vénézuéliennes, près du delta de l'Orinoque. Les collines de l'arrière-pays sont coupées par une vallée, fertile. Tout autour s'étendent des plages à n'en plus finir. Sur la côte nord-est, l'embouchure d'un petit fleuve forme un port naturel. On y trouve des chèvres et surtout une grande variété d'oiseaux. » Il sirotait un digestif aux herbes dans un verre incrusté de filets argentés et fumait tout en buvant. Je me perdis dans les nuages de sa voix. Des perroquets, des faucons, des tatous, des tortues aussi et des lièvres. Le climat n'est pas terrible. De la pluie de mi-février à avril, de mi-août à octobre, le reste de l'année du soleil, un soleil de plomb. Mais quand tombe le soir, à la saison sèche, on peut s'allonger dans un hamac, chercher dans le ciel les étoiles les plus lumineuses et attendre qu'elles se détachent et tombent dans la mer. C'est un endroit où l'on ne s'ennuie pas, je suppose, ajouta-t-il. Sais-tu quelle a été la chance de Robinson ? Non, c'était quoi ? Il savait faire marcher sa cervelle et utiliser ses mains, dit-il en me montrant les siennes, travailler le bois, les feuilles et la pierre. Je ne serais même pas capable d'allumer un feu. Enfant, j'aimais les matériaux. Tout peut se transformer.
Ces divagations du soir devinrent un heureux rituel. Grand-père évoquait des océans et des montagnes, décrivant avec minutie la terre du milieu et la forêt noire, Rohan et Gondor, Narnia et Terabithia, l'île Mompracem et les Gottes froides, le pays des Wyn et Camelot. Je pense qu'il inventait tout, que seuls les noms restaient attachés aux souvenirs de ses lectures de jeunesse, ou peut-être pas, peu importe. Le fait est que la nuit m'accueillait ensuite avec une grâce surprenante. Mes rêves se peuplaient d'images changeantes qui, à l'aube, s'évanouissaient sur les murs. Et alors, ayant ouvert les yeux et évacué la torpeur de mes bras et de mes épaules, je sautai du lit avec enthousiasme.
Encore une histoire de famille. Vous pouvez nous rappeler, Dominique, le titre et puis l'éditeur?
Alors, Le dernier été du siècle de Fabio Geda chez Kalman Levy.
Merci. Et nous avons devant les yeux, Nadia et Jean-Pascal, un livre également qui est sorti il y a 2 ans, Galicière, une usine de moulinage de la soie. Vous avez mis combien de temps pour sortir? C'est un livre qui a... c'est un pavé.
c'est un livre qui est très lourd.
qui
a 304 pages, voilà. Couleurs. Comme il y a beaucoup de photos, on a voulu un papier un petit peu épais et riche. C'est un livre qui a été conçu, pensé, écrit par l'association Les Amis de la Glissière, qui a été aussi édité par l'association. Et en fait, il a un but, ce livre, c'est que la vente de ce livre va permettre de financer la restauration des ateliers et des machines. Voilà, c'était l'idée que nous avons eue il y a de cela maintenant quelques années. Comment trouver les fonds, comment lever des fonds pour pouvoir procéder à une restauration qui soit importante et sans faire appel au pouvoir public, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Et puis, de toute façon, ce n'est pas forcément cette vocation-là que doit avoir l'État. On a eu l'idée de faire appel à des contributeurs, à des historiens, des techniciens, à un écrivain, des dessinateurs, un photographe.
Tous les gens qu'on a eu l'occasion de croiser pendant ces pratiquement 15 ans autour de l'association Les Amis de la Galicière. On a rassemblé toutes les connaissances acquises pendant ces 15 dernières années.
Et tout le monde a répondu positivement et bénévolement, gracieusement, en disant « Ok, on vous suit, on va écrire, on va dessiner, on va photographier quelque chose pour vous ». Et ce livre est vraiment un résumé de ces 15 années. Et chacun peut y trouver quelque chose. Ce n'est pas... c'est ouvert à tous. C'est un bon moment pour tous. On ne le lit pas de la première page à la dernière page. On picore. Et voilà, il est destiné au plus grand nombre. Et encore une fois, l'argent engendré par la vente de ce livre nous permettra de restaurer les machines, ce qui est quand même un but...
Très important. Oui. Et donc, on y trouve aussi bien l'histoire de la famille, l'histoire de ses fabriques, l'architecture, les machines, et puis l'histoire de la soie aussi, parce qu'on oublie, là, on est rentré avec la soie dans notre pays, dans la région, mais il y a toute une histoire avec la Chine, etc., la route de la soie tout de même... Et alors les photos, moi je me régale à voir ces photos.
Alors il y a deux types de photos, oui. Il y a les photos anciennes, celles du chanoine dont nous a parlé Jean-Pascal tout à l'heure, donc ces photos qui ont été prises autour de 1900, qui sont absolument fabuleuses.
C'est fabuleux.
Ces plaques de verre qui ont été retrouvées, ces 600 plaques de verre, et qui chacune racontait une histoire. Donc on avait vraiment envie depuis l'expo de 2002... Donc cette expo, en fait, nous avait permis de les mettre en valeur en faisant une centaine de portraits, en agrandissant une centaine de portraits de ces photos et en les mettant aux fenêtres de la Galicière. Donc on pouvait les voir de l'extérieur et en grand. Et là, on avait envie d'en faire découvrir d'autres. Et les photos aussi de Luc Bugli, qui est un photographe contemporain, bien vivant, lui, et qui est un photographe d'architecture.
Et qui nous a fait la gentillesse de
nous faire un reportage.
Photographier et qui a décidé de la mise en page un peu particulière de ces photos, puisque certaines photos se retournent sur la page suivante.
Et vous avez le romancier, on va l'appeler comme ça, le romancier.
Tout à fait, c'est son premier roman, mais c'est je pense
son premier roman, et il nous emmène comme ça dans un délire, mais on part très très facilement. Alors, mais j'ai pu voir qu'il était très très attaché à être au plus proche de la vérité. Non,
je suis pas tout à fait convaincu. mais Pierre a effectué dans un premier temps un travail d'interview. Je dirais des différents protagonistes de l'association. Puis après, il a élargi. Il a aussi intégré pas mal de ses univers personnels pour nous livrer une histoire très romancée de la Galicière.
De Mademoiselle Crozel aussi.
Ce qui nous permet, il y avait un rythme, donc c'est une dizaine de chapitres qui correspond. Son postulat était de dire comment on peut rester pratiquement un siècle au même endroit sans bouger, ce qui a été à peu près le cas de la Demoiselle Crozel qui est peu sortie de la Galicière. Et en même temps, ça lui permet de balayer le siècle avec 10 chapitres qui correspondent à peu près aux 10 décennies écoulées.
Leur FM 97.1 avec nos invités Nadia et Jean-Pascal Crouzet et Monsieur Périnet pour cette fois-ci la Muerte, le coup de cœur passé à la Châte chez vous l'an dernier.
L'an dernier, oui.
Voilà.
Alors Nadia ou Jean-Pascal, comment et où peut-on se procurer ce très très beau livre que nous avons devant les yeux ?
Il suffit de se rendre sur le site de l'association www.galicière.org. Et là, il y a une rubrique qui est destinée à la vente de ce livre, donc soit par PayPal, soit en envoyant un chèque directement à l'association. Et l'association a décidé de faire cadeau des frais de port pour les acheteurs.
En librairie.
Et encore
aussi.
En librairie, il est encore en librairie.
Ou en se rendant aux journées de patrimoine.
Ah oui, tout
aussi.
À fait. Tout à fait.
Vous avez des visites, des heures à laquelle on peut visiter ce...
Ah oui, tout à fait. Alors, cette année, nous serons ouverts donc samedi après-midi et dimanche toute la journée. Et les visites sont à heure fixe, hein, puisque ce sont des visites commentées. Et donc, on en propose une à 14h le samedi et une autre à 16h. Et le dimanche, 11h, 14h et 16h. Ces visites seront donc commentées et ponctuées par des lectures faites par le groupe Les Mots de Cigalière.
Et voilà, je vous entends et j'ai envie de venir vous voir. Comment ça se passe ? On vient...
Malheureusement, le site ne peut pas être ouvert au public. Il est animé par une association. Il n'y a pas de salariés pour accueillir. Et même, point de vue assurance, c'est un peu compliqué. En revanche, tous les gens qui en font la demande, et dès lors que c'est un groupe au-delà de 15 personnes, on ouvre le site.
En vous contactant
Voilà, ce rendez-vous, on s'organise et à ce moment-là, on fait des visites de groupe, voilà, une vingtaine de personnes minimum, et on fait visiter vraiment volontiers. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas être ouvert comme ça. Enfin, on ne peut pas s'arrêter de travailler pour faire une visite commentée. Encore une fois, le site n'est pas aménagé pour être ouvert au public tous les
et
jours.
Et on vous contacte toujours par le blog
Oui, ou par téléphone au 04 76 38 85 77 ou par mail, voilà.
Par contre, on peut vous joindre lors des événements que vous organisez, en été par exemple.
Ah oui, bien sûr, lorsque nous faisons des animations, souvent elles sont ouvertes au public, et à ce moment-là on fait...
Elles sont toujours ouvertes au public.
Elles sont souvent gratuites.
Mais toujours ouvertes au public.
Toujours ouvertes au public, au plus grand nombre évidemment.
Alors qu'est-ce qui se passe effectivement en été ?
Alors, de là, depuis quelques années maintenant, nous fêtons la musique, le 21 juin, ou autour le samedi, on va dire, autour du 20 juin, du 21 juin. Donc c'est l'occasion pour nous de faire se produire des groupes locaux ou même d'un peu plus loin, comme cette année. Et ensuite, les Allées Chantes, qui depuis quelques années nous font l'honneur de nous proposer un spectacle, donc un concert. Nous avons eu Johanna, Monsieur Périnet, l'année dernière, de la musique irlandaise. Cette année, oui. Et l'année prochaine, probablement autre chose. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir d'ouvrir ce site au public.
Vous avez eu du théâtre également, non, il me semble.
Plusieurs années de suite, donc ça évolue. On aimerait bien aussi aller peut-être vers le monde de l'art contemporain. Pour ce qui est du théâtre, il y a eu plusieurs lectures. On a fait plusieurs partenariats avec le festival Texte en l'air de Saint-Antoine, où il y avait des petits off qui se sont déroulés à la Galicière, et on a aussi organisé créé un spectacle avec Pierre Le Carme qui s'appelait Soit dit en chantant, qui racontait l'histoire d'une vieille ouvrière, et le récit était ponctué par les chants d'un cœur d'homme, le cœur d'homme de Châte qui s'appelle Entresol.
En fait, ce sont des animations qui vont au gré de nos rencontres. Voilà, on décide rarement de faire des choses des années à l'avance. C'est au gré des rencontres, des propositions qu'on nous fait, des coups de cœur. on en parle après entre nous, au bureau, et puis on fonce.
Et dès lors que ça a un rapport avec la Galicière, alors hormis peut-être pour les alléchantes ou la mise à disposition du site pour les institutionnels, mais c'est vrai qu'après on a été plusieurs fois sollicité pour des spectacles et on a répondu dès lors que ça faisait du sens et que ça avait un lien soit avec l'histoire de la Galicière, soit avec l'industrie de la soie, la sériciculture.
Est-ce que ça a un sens si je veux vous demander de louer les lieux ou de me prêter les lieux pour mon anniversaire pour, est-ce que vous avez ce genre de...
Vous êtes 150, mais surtout si vous êtes capable de garantir le soleil, il n'y a aucun problème. Malheureusement, la Galicière n'a pratiquement aucun espace abrité parce qu'il est occupé essentiellement par les machines. Tous les rez-de-chaussée sont occupés par les machines. Donc sinon, effectivement, on aurait bien aimé pouvoir générer des fonds par le biais de location, mais on est toujours tributaire du temps. On a eu une chance extraordinaire. Je dirais jusqu'à cette année, mais c'est de la musique irlandaise, donc ça se prêtait assez bien. On a eu de la pluie, mais généralement, depuis 15 ans, on passe à travers. Et pour toutes les manifestations, on a le beau temps. Mais c'est assez dur de garantir pour un anniversaire ou un mariage le beau temps. Donc effectivement, le lieu aujourd'hui ne s'est jamais prêté à de manifestation, alors qu'il s'y prêterait très bien.
Oui, je me dis, je cherche pour vous une façon de récupérer des fonds.
On y pense,
mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Il y a des parties encore à sécuriser et donc la cour, bien entendu, la cour et une petite partie qui s'appelle aujourd'hui le café des inconnus en mémoire de cette première exposition. Mais sinon, les concerts ont lieu en extérieur et l'été. Donc mais l'été, oui, pourquoi pas.
Mais c'est vrai que c'est un endroit magique. Hein. D'ailleurs, même les photos du chanoine nous en témoignent. Tous ces banquets, ces grandes tables qu'on voyait déjà à l'époque.
C'est un lieu qui se prête à accueillir du monde. Il y a toujours eu du monde. Donc
c'est vrai.
Effectivement, on ne rêve que de ça. Mais après, il faut être réaliste. On ne sait pas garantir le beau temps. Donc c'est souvent ce qui achoppe.
Non, et puis évidemment, entre le moment où on fait les choses comme ça, entre nous, entre amis, et le moment où on met à disposition à autrui, il y a toute une phase.
Toute une phase, puisque vous l'avez dit.
On fait pas ça comme ça, des normes de sécurité, voilà, etc.
L'assurance, etc.
Bien sûr. Donc ce serait un projet, à proprement parler. Alors évidemment,
Il est à l'étude. Mais... On aimerait, si on doit parler du devenir... De la Galicière, en faire un lieu de résidence raffiné pour, alors malheureusement, pas forcément le plus grand nombre, mais on essaie d'imaginer un lieu d'hébergement qui pourrait permettre d'accueillir une vingtaine de personnes. Et ça, ce serait facilement envisageable. Après, accueillir un grand nombre et garantir le succès, c'est beaucoup plus compliqué.
En tout cas, on vous souhaite bonne route et à venir vous visiter à l'occasion, là déjà pour les journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre. Donc près de Saint-Marcellin, j'imagine qu'on connaît mieux Saint-Marcellin que Châtenon
Oui, Saint-Marcellin a été sous préfecture de l'Isère, donc effectivement...
pour nous qui sommes décentrés.
À une taille tout à fait plus importante, mais Châtenon est le petit village après Saint-Marcellin, sur la route qui conduit à Saint-Antoine.
Qui est adorable.
Et la Galicière est juste à côté du cimetière. C'est facile à trouver.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne route, bonne continuation, bon courage. Et prenez soin de vous.
Merci.
Merci Dan.
Merci
Dominique. Merci Laurent. Et puis à bientôt.